VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour le monde aujourd'hui, édition du mercredi 20 mars 2019, en direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
Au moins 300 morts, tel est le nouveau bilan du cyclone Idai en Afrique australe.
En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi remplace Caleb Moutonde à la tête de la très redoutée Agence nationale de renseignement, l'ANR.
En Côte d'Ivoire, heure entre élèves et policiers hier à Abidjan.
Africom, le commandement américain en Afrique, dément les accusations d'Amnesty International faisant état de victimes civiles dans les frappes américaines en Somalie.
Ici à Washington, le président Donald Trump a évoqué une possible adhésion du Brésil à l'Alliance Atlantique en recevant son homologue sud-américain Jair Bolsonaro.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
Au moins 300 personnes, selon un dernier bilan, ont été tuées par le cyclone Idai, qui a balayé la semaine dernière l'Afrique australe, où les secouristes redoublent d'efforts pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et sur des toits. Au Mozambique, pays le plus frappé par les intempéries, on est déjà à plus de 200 morts, a annoncé mardi le président Philippe Nyusi, qui a décrété un deuil national de 3 jours. Bagassi Koura fait le point.
D'après les informations qui nous ont été données ici en arrivant sur le terrain, on est déjà à plus de 200 morts, a déclaré M. Nyusi à la fin d'un conseil des ministres qui se tenait à Beira, dans le centre du pays, une région en partie détruite par le cyclone. Le précédent bilan officiel faisait état de 84 morts dans cette région de Beira. Près de 350 000 personnes sont actuellement en zone inondée, selon le président. Nous sommes dans une situation extrêmement difficile, a-t-il estimé, ajoutant que le gouvernement avait déclaré un deuil national de 3 jours à compter du 20 mars. Sur le plan matériel, 23 000 habitations, 30 unités de santé et 507 salles de classe ont été détruites, selon les autorités mozambicaines. Par ailleurs, les secouristes étaient engagés mardi dans une course contre la montre pour sauver des milliers de personnes toujours réfugiées sur des arbres et des toits 5 jours après le passage du cyclone Idai en Afrique australe, qui pourrait être le plus meurtrier jamais survenu dans la région.
Au Zimbabwe voisin, environ une centaine de personnes ont été tuées, mais le bilan pourrait tripler, a prévenu le ministre zimbabwéen du gouvernement local, Julai Moyo. Il y a des corps qui flottent, certains flottent jusqu'au Mozambique, a-t-il précisé, emportés par les eaux.
En République démocratique du Congo, le nouveau président Félix Tshisekedi a annoncé hier soir des changements à la tête de la très redoutée et très critiquée Agence nationale de renseignement, l'ANR, avec le départ de son patron sous sanction de l'Union européenne. En poste depuis 2011, l'actuel administrateur général de l'ANR, Caleb Moutonde, est remplacé par son numéro 2, Inzun Kakiak, selon une ordonnance présidentielle lue sur la chaîne d'État RTNC. Très proche de l'ancien président Joseph Kabila, Caleb Moutonde est l'une des 14 personnalités congolaises sanctionnées par l'Union européenne pour la répression des manifestations de l'opposition dans les dernières années du régime Kabila.
En Côte d'Ivoire, des affrontements sur fond de grève des enseignants ont opposé hier élèves et policiers à Abidjan. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Les enseignants d'une grande partie des écoles primaires et secondaires sont en grève depuis près de 2 mois. Ils réclament de meilleurs traitements et conditions de travail. L'université Félix Oufouette-Boigny a connu 6 semaines de grève des professeurs avant une suspension début mars. Selon plusieurs témoignages, des élèves et étudiants voulaient empêcher les cours de se dérouler dans des établissements où la grève n'est pas suivie. Un groupe d'élèves et étudiants de la FESI, Fédération Estudiantine et Scolaire de Côte d'Ivoire, en furie est venu pour déloger leurs camarades de Mermoz à Cocody, a expliqué un témoins, ajoutant qu'ils ont été empêchés par les policiers qui ont fait usage de gaz lacrymogène pour les disperser. Des incidents similaires se sont déroulés devant le lycée moderne de Cocody, où des policiers ont fait usage de lances à eau pour disperser des élèves qui ripostaient en leur jetant des pierres. Les grèves sont récurrentes en Côte d'Ivoire depuis 2 ans, malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans, moyennant le paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire pour environ 130 000 fonctionnaires.
La police mauritanienne a refoulé dimanche à son arrivée à l'aéroport de Nouakchott des membres d'une délégation d'Amnesty International qui souhaitait effectuer une mission sur les droits de l'homme dans ce pays. Précision d'Irénée Herman Ongbo.
Les deux membres d'Amnesty, François Patuel, chercheur du bureau de l'Organisation en Afrique de l'Ouest, et Kine Fatim Diop, chargé de campagne, respectivement de nationalité française et sénégalaise, ont été refoulés et renvoyés à Dakar le même jour, selon les intéressés et une source de sécurité mauritanienne. Les autorités mauritaniennes ont récemment fait preuve d'ouverture et ont reçu plusieurs délégations d'Amnesty International et d'experts des Nations Unies en matière de droits humains, a souligné François Patuel, les appelant à continuer de faire preuve de transparence à l'approche de la présidentielle de juin. De sources gouvernementales, Nouakchott refuse l'entrée sur son territoire de ces organisations dont les rapports sur le pays ont toujours été tendancieux, notamment en ce qui concerne l'esclavage. Une délégation d'Amnesty s'était vue interdire l'accès au territoire mauritanien dans des conditions similaires en novembre 2017, mais avait pu y accéder en avril 2018 lors d'une réunion à Nouakchott de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. En mars 2018, dans un rapport présenté à Dakar, l'ONG avait dénoncé les dangers encourus par les défenseurs des droits de l'homme combattant la persistance de l'esclavage et des discriminations en Mauritanie. Le même mois, un photojournaliste franco-marocain arrêté en raison d'un reportage qu'il réalisait sur l'esclavage, selon Reporters sans frontières, avait été expulsé de Mauritanie.
Amnesty International affirme que 14 civils ont été tués ces deux dernières années dans des frappes aériennes américaines en Somalie. Des accusations que les militaires américains démentent énergiquement. L'ONG de défense des droits de l'homme a publié mardi un rapport fondé, selon elle, sur les déclarations de 65 témoins, plusieurs photos, des images satellites et des posts sur les médias sociaux. AFRICOM, le commandement américain en Afrique, souligne qu'aucun civil n'a été tué dans les frappes contre les djihadistes Chebab et que le rapport d'Amnesty International ne reflète pas correctement les efforts extraordinaires déployés par AFRICOM pour éviter de faire des victimes civiles. Les frappes américaines sont effectuées en coordination avec le gouvernement somalien et sont caractérisées par une politique de grande retenue, précise AFRICOM.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Ici à Washington, le président Donald Trump a loué une proximité sans précédent entre les États-Unis et le Brésil. Et son homologue, Jair Bolsonaro, a affiché un pro-américanisme très marqué qui tranche avec la tradition de la diplomatie brésilienne. Eric Manirakiza.
Au-delà d'une passion commune pour les tweets et d'un goût revendiqué pour la provocation, l'ancien magnat de l'immobilier et l'ex-parachutiste sont à l'unisson sur nombre de sujets, de leur rejet du multilatéralisme à la dénonciation de l'accord de Paris sur le climat. Vous faites un travail fantastique, vous avez rassemblé votre pays, a lancé le président Trump depuis les jardins de la Maison-Blanche. Le président brésilien s'est dit convaincu que le milliardaire serait réélu en 2020. J'ai toujours admiré les États-Unis et cette admiration est devenue encore plus forte après votre prise de fonction, a dit Bolsonaro. Ils ont insisté sur une coopération économique renforcée. Monsieur Trump s'est dit prêt à accorder au Brésil le statut d'allié majeur non membre de l'OTAN et a même évoqué à la stupeur générale une possible adhésion de la première puissance économique d'Amérique latine à l'Alliance atlantique. De son côté, le président Bolsonaro a annoncé qu'il autoriserait les États-Unis à lancer des satellites depuis son centre spatial d'Alcantara. Les deux hommes ont aussi affiché leur unité sur le Venezuela, faisant encore monter la pression sur le président Nicolas Maduro, dont il réclame avec force le départ. Un peu plus tôt, devant les journalistes, les deux hommes avaient échangé des maillots des équipes de football de leur pays. Je m'en souviens encore de Pelé, à l'ancien monsieur Trump, louant les qualités de la CELESAO.
Et concernant le Venezuela, le président Trump a appelé les militaires de ce pays à arrêter de soutenir le président socialiste Nicolas Maduro, dont les États-Unis souhaitent le départ et son remplacement par le président autoproclamé Juan Guaido. Le président américain a évoqué de possibles sanctions beaucoup plus dures qui pourraient être imposées contre Caracas.
Aux Pays-Bas, la piste terroriste est étudiée sérieusement dans l'enquête sur la fusillade qui a fait lundi dans un tramway à Utrecht 3 morts et 7 blessés, dont 3 grièvement, selon un bilan actualisé. C'est ce qu'ont annoncé hier les enquêteurs qui ont également arrêté un nouveau suspect. Ils ont expliqué se baser notamment sur une lettre retrouvée dans la voiture utilisée pour sa fuite par le suspect principal, Gökmen Tanis, un homme de 37 ans, né en Turquie. Ce dernier, déjà connu de la justice néerlandaise pour des faits de vol et de viol, a été arrêté lundi à l'issue d'une chasse à l'homme de 8 heures. Une arme à feu a été saisie lors de son interpellation.
Des parlementaires américains ont demandé hier aux dirigeants de quatre géants de l'Internet, Facebook, YouTube, Twitter et Microsoft, de venir s'expliquer sur la prolifération en ligne de la vidéo relative au massacre perpétré vendredi dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, vidéo qui avait été diffusée en direct sur Facebook par le tireur. Pour la commission de la sécurité intérieure de la Chambre des représentants, il est d'une importance capitale de pouvoir filtrer le genre de violence diffusée dans la vidéo de Christchurch. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Gabon Oil Company, une société publique du pétrole, vient de conclure un accord avec BW Energy Gabon pour acquérir 10% de participation dans le contrat de partage de production du SAFU. L'agence Ecofin annonce que la transaction est soumise à des conditions suspensives, dont l'approbation du gouvernement gabonais. En plus, Gabon Oil doit payer 28,5 millions pour rembourser les 10% qui représentent les montants investis dans le développement et la production, laquelle a démarré sur place depuis septembre 2018. La production actuelle du site est d'environ 12 000 barils par jour. Les actionnaires de Banco Angolano de Investimento, une banque privée angolaise, envisagent accroître le capital de la banque de 46,5 millions de dollars à 499 millions de dollars si elle est approuvée. Selon Ecofin, cet établissement bancaire pourra dès lors devenir la deuxième banque du pays en termes de capital social, derrière Banco Pupansa e Credito, une banque détenue à hauteur de 75% par l'État angolais. Pour terminer, la filiale locale de l'opérateur français Orange Guinée a décroché la première licence 4G du pays pour 90 millions de dollars et pour une période de 10 ans. La société se fixe comme exigence, entre autres, la couverture de tous les districts et des axes routiers et ferroviaires de Guinée en 2G et 3G. Elle prévoit également la couverture des grandes villes et des axes ferroviaires et routiers principaux et au moins 90% de la population en réseau 4G.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Le Gabon jouera sa qualification avec Aubameyang.
Oui, dans l'obligation de s'imposer samedi au Burundi, pour valider sa qualification, le Gabon pourra compter sur son capitaine et joueur vedette Pierre-Emerick Aubameyang. En froid avec sa sélection et absent lors des deux derniers matchs face au Soudan du Sud et au Mali, l'attaquant d'Arsenal avait laissé planer le doute sur sa participation à ce match capital. Mais Aubameyang a décidé d'honorer sa convocation. Une bonne nouvelle donc pour le sélectionneur Daniel Cousin, qui a débuté le rassemblement sans aucune garantie de la part du gaineur.
Patrice Neveu n'est plus l'entraîneur du Oroya.
Et oui, une décision surprenante prise par les dirigeants. 72 heures à peine après avoir guidé le club vers un deuxième quart de finale consécutif de Ligue des Champions de la CAF. Pour l'heure, pas beaucoup d'informations sur les raisons de ce limogeage. Il n'a pas été à la hauteur par rapport à la formation des jeunes du centre de formation du Oroya AC, estime le directeur général du club. Patrice Neveu était arrivé à Conakry en octobre 2018, à la tête du club de Matam en lieu et place de Victor Mvunka. Après avoir remporté la Supercoupe, il occupe la tête du championnat local.
L'Inter, de nouveau sanctionné pour des cris racistes de ses fans.
Oui, l'Inter de Milan a été condamné à une fermeture partielle de ses tribunes avec sursis. Après des cris racistes lancés au milieu international ivoirien Franck Kessier de l'AC Milan, dimanche lors du derby. Les interistes ont déjà été obligés de disputer deux matchs à huis clos à la suite des cris de singe adressés à l'international sénégalais de Naples, Khalidou Koulibaly, en décembre dernier. Les juges sportifs ont précisé que la sanction entrerait en vigueur en cas de récidive au cours des 12 prochains mois.
Le FC Porto veut garder Casillas jusqu'à l'âge de 40 ans.
Oui, l'ancien gardien de but du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne a l'accord du FC Porto pour prolonger jusqu'en 2021, soit jusqu'à l'âge de 40 ans. Arrivé à Porto à l'été 2015, Iker Casillas avait prolongé son contrat d'un an à la fin de la saison dernière, marqué par le titre de champion du Portugal décroché par le club, le premier de Casillas depuis son arrivée. Il avait alors affirmé son intention de terminer sa carrière chez les Dragons. Basketball, pour finir avec vous Idrissa, les résultats de l'année dernière en NBA.
Philadelphie et Charlotte, 118 à 114. Houston et Atlanta, 121 à 105. Milwaukee et LA Lakers, 115 à 101. Golden State et Minnesota, 117 à 107.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, réaction du mouvement pour la libération du Congo, le MLC, aux décisions de la réunion interinstitutionnelle suspendant, entre autres, l'installation du nouveau Sénat après des allégations de corruption. Le parti de Jean-Pierre Bemba estime que cette réunion n'a pas de pouvoir légal pour prendre des décisions et demande que les investigations s'étendent également à la présidentielle. Eddy Sango a joint le secrétaire général adjoint du MLC, Fidel Babala.
Je suis étonné que l'amateurisme et l'amalgame élisent domicile au sommet de l'État, où un organe qui n'a aucun pouvoir de décision puisse prendre des décisions qui impactent la vie de toute une nation. Vous vous souviendrez que cette réunion a été convoquée suite au coup de klaxon de quelques motards ou motocyclistes, soi-disant appartenant au parti du président nommé, M. Félix Tshisekedi. Et c'est sur base de cela qu'on prend toute une nation en otage, qu'on suspend, même si on n'a pas la compétence de le faire, on ose faire des annonces pour avoir l'ambition de suspendre un cycle électoral. Ils n'ont pas le pouvoir. Ce sont des décisions qui n'ont aucun effet.
Quand même, vous êtes aussi peut-être victime de cette corruption.
Nous sommes totalement d'avis qu'il faudra arriver de manière tout à fait appropriée à lutter contre la corruption qui commence à devenir très endémique dans notre pays. Mais pourquoi on exclurait les élections présidentielles ou de l'avis de toute la planète? Il y a une vaste tricherie. Cette tricherie a impacté les élections législatives aussi. Parce qu'on ne peut pas comprendre que la majorité de la population ait voté pour les changements, qu'on élise les députés et c'est totalement antinomique. Mais bon, comme l'institution présidente de la République aujourd'hui est une émanation de la tricherie, nous vivons cela. Si on doit pouvoir faire des enquêtes, qu'on remonte jusqu'à la présidentielle aussi. Pourquoi faire la demi-mesure ?
Joint à Kinshasa, Fidel Babala, secrétaire général adjoint du MLC.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Kisangani, en RDC, sur 97.7 FM.
Retour sur la visite au Cameroun du secrétaire d'État adjoint américain aux affaires africaines, Tibor Nagy, qui a rencontré lundi à Yaoundé le président Paul Biya, dans un contexte quelque peu tendu. Le gouvernement camerounais a en effet mal digéré les récentes sorties médiatiques du diplomate américain sur la gestion de la crise anglophone, de même que sur l'arrestation de l'opposant Maurice Kamto et d'une centaine de ses partisans. Pour analyse, John Linden a joint le professeur Joseph Touda Ebodé, directeur du Centre de recherche politique et stratégique à Yaoundé.
On peut retenir principalement deux choses. La première, c'est que c'est une reprise de contact au niveau assez élevé après une hibernation assez longue. Et la troisième chose, c'est que cette visite arrive à un moment où il y avait un certain nombre de préoccupations dans l'opinion publique et dans la classe politique. Et la position américaine est donc venue plus ou moins pour donner la version américaine ou la posture américaine par rapport à problématique.
Alors, dans un tweet, M. Tibor Nagy dit avoir eu avec le président Biya des discussions sur la sécurité et les droits de l'homme. Y a-t-il un problème de respect des droits de l'homme au Cameroun?
Ça dépend de comment on regarde tout cela. Je crois que du point de vue des États-Unis, lorsqu'on lit l'ensemble de leurs rapports publiés ces derniers temps, il y a des accusations de violation des droits de l'homme. C'est une évidence. Du point de vue de leur rapport. Du point de vue du Cameroun, ce n'est pas certain que tout ce qui est indiqué comme violation des droits de l'homme est une atteinte aux droits de l'homme. Donc, de toutes les manières, la rencontre aura permis au moins de donner et d'écouter les uns et les autres. Néanmoins, dans la déclaration de circonstances, il n'a pas évoqué cet aspect en disant que les questions diplomatiques sont sous couvert du sceau du secret.
Avant son arrivée au Cameroun, on a quand même remarqué un échange de mots, parfois pas très diplomatique, entre le côté américain et le Cameroun. On a enterré, j'ai envie de dire, la hache de guerre.
Disons, dans les déclarations à la sortie de l'audience, on a l'impression donc on a enterré la hache de guerre, mais vous savez aussi que c'est un comportement diplomatique normal. C'est plutôt le précédent comportement qui n'était pas tout à fait diplomatique.
Et comment voyez-vous l'avenir des relations entre les États-Unis et le Cameroun au cours des prochaines années?
Moi, je crois que les relations entre le Cameroun et les États-Unis sont dans une bonne perspective. Je voudrais quand même souligner que ce fut le premier pays qui a reconnu l'État du Cameroun et que jusqu'aux années 90, il n'y a jamais eu de différend majeur entre le Cameroun et les États-Unis. La lutte contre le terrorisme dans la zone du Golfe de Guinée, surtout au niveau du Boko Haram, je crois qu'il est de l'intérêt des États-Unis que la situation contre le terrorisme s'améliore. Il est aussi de l'intérêt du Cameroun et des États de la sous-région.
Joint à Yaoundé, le professeur Joseph Ntouda Ebodé.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Au Gabon, le réseau de distribution de l'eau potable connaîtra une extension dans les prochains jours. C'est ce qu'a annoncé récemment à Libreville la Banque africaine de développement. Là-bas, de promet de construire 150 km de conduite en vue de l'extension du réseau d'eau dans la capitale gabonaise et ses environs. Notre correspondant sur place, Ismaël Obiangze, nous présente les difficultés d'accès d'eau dans certains quartiers de Libreville.
La distribution de l'eau à Libreville est un véritable casse-tête pour les habitants de certains quartiers et aussi pour les pouvoirs publics qui ont du mal à satisfaire la demande urbaine sans cesse croissante. Alexandre Bian, un habitant de Libreville.
Si vous essayez de faire un peu le tour de certains ménages, vous allez constater la présence des bidons, donc ce qui veut dire que la situation n'a pas encore changé.
Pareille situation complique le mode de vie des populations obligées de se débrouiller par tous les moyens pour se procurer de l'eau sans forcément se soucier de sa potabilité. Constant Nguema habite le quartier Bellevue 2 à Libreville.
On a pratiquement fait trois ans ici, on n'avait pas de même pas une seule goutte. Donc tout le monde avait recours à ces puits que vous venez de filmer. Et pour boire, il y a certains, si vous n'êtes pas véhiculé, eh ben, vous êtes complètement cloué. Donc nous qui avons un peu les voitures dans le parking, donc à chaque fois, lorsqu'on essaie un peu d'aller à la puits de l'eau, on prend un peu les bidons de tout un chacun. On va les remplir et puis on les ramène.
Les principales causes de cette situation sont connues. Une urbanisation mal maîtrisée, un déficit des politiques publiques en matière d'équipements sociaux par endroit. Cyril Obanda, un autre habitant de Libreville.
C'était tout un calvaire. Ici, il n'y a pas de pompe publique, il n'y a pas d'eau potable. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de pompe publique. Nous sommes obligés de fonctionner avec ce que vous avez vu tout à l'heure là. En fait, c'est même pas des trucs utilisables. Et puis, il n'y a pas à dire que c'est l'État ou bien ceci, cela. Non, l'État ne vient pas dans le Matiti implanter des ponts publics. Il y a des gens qui sont là pour ce genre de choses.
Ce projet d'extension, objet d'une nouvelle convention entre le gouvernement gabonais et la Banque africaine de développement, devra permettre de régler la question d'eau potable pour des milliers de personnes dans la capitale, tout en les mettant à l'abri des maladies hydriques. Jean-Marie Oganaga, ministre gabonais de l'économie.
Nous avons, avec la BAD, cet ambitieux programme qui va faire en sorte que le Grand Libreville soit totalement irrigué et avec de nouveaux conduits d'eau.
Selon les données officielles communiquées par la Société d'énergie et d'eau du Gabon, il faut 300 000 mètres cubes d'eau par jour pour satisfaire la demande sans cesse croissante de la commune de Libreville, Ovendo et Akanda, où vivent plus de la moitié de la population gabonaise, estimée à 1,8 million d'habitants. Libreville, Ismaël Obianze pour VOA Afrique.
Le chômage et la déforestation constituent deux problèmes majeurs dans beaucoup de pays. La quête de bois pour le chauffage ou la construction entraîne la déforestation qui, à son tour, a des effets néfastes sur l'environnement et le climat. Un ébéniste ivoirien a décidé de faire quelque chose pour à la fois réduire la déforestation et gagner sa vie. Avec du matériel recyclé, il fabrique des boîtes de sonorisation. Reportage de Nicolas Azoukoué, repris ici par Lionel Gahima.
Fofana Moussa est ébéniste, mais pas un ébéniste ordinaire. Sa spécialité est la fabrication de bois de sonorisation. Avec du matériel recyclé, Moussa a fait des produits de qualité qui sont ensuite vendus. Son inspiration a été un constat d'un besoin de réduire la déforestation.
Qu'est-ce qui m'a inspiré à faire ce travail? C'est d'abord
C'est l'aspect écologique. De nos jours, aujourd'hui, le changement climatique, ça prend de l'ampleur. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller acheter du bois qui sort directement de la forêt. C'est ce que les gens jettent, souvent récupèrent, et souvent aussi on va acheter avec des grossistes qui rassemblent, et nous on va acheter avec eux.
Grâce à la qualité de ces bois de sonorisation artisanale, Moussa a vu sa clientèle croître à Abidjan. La majorité de ses clients sont des Nigérians qui utilisent ces bois de sonorisation pour des haut-parleurs.
Je traite avec Moussa pour ces boîtes de sonorisation. Je les utilise pour mes haut-parleurs parce qu'elles sont de bonne qualité. Donc quand je viens ici, j'en prends beaucoup.
Fofana Moussa veut inspirer les jeunes à contribuer dans la lutte contre le changement climatique.
Ce que je voudrais dire surtout à la jeunesse d'aujourd'hui, c'est que chacun doit lutter de son côté. Du changement climatique, regarde ce qui se passe un peu en Europe, en Afrique, en Asie, en Amérique. Et si aujourd'hui, nous, petits Africains, un peu de moyens, on arrive à penser à quelque chose pour évoluer, pour dire, ah voilà, au lieu de chaque fois aller couper nos forêts, pour nous faire de ça, et si on couperait ce qui était déjà sur place.
Fofana Moussa est une inspiration pour les jeunes démunis. Il emploie 4 autres personnes dans son atelier, leur permettant ainsi de gagner leur vie, tout en contribuant dans la lutte contre le changement climatique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
Enfin, l'Algérie, où la rue ne décolère pas, alors que le pays célèbre le 57e anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance, des milliers d'étudiants ont été rejoints par des professionnels de la santé pour manifester à Alger. Ils réclament le départ du président Abdelaziz Bouteflika, qui a renoncé la semaine dernière à briguer un 5e mandat, mais qui a repoussé la présidentielle initialement prévue en avril. Pour une analyse de la situation, Morgan Guiriek a joint Ahmedou Ould Abdallah, ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, ex-émissaire spécial de l'ONU et président du Centre Sécurité Stratégie pour le Sahel et le Sahara.
L'Algérie a une vieille tradition de révolution, de refus de la domination, du refus de l'oppression. Et je suis sûr que les dirigeants actuels, dont beaucoup sont issus de cette culture, comprennent qu'il est extrêmement important de bien gérer et de faire le compromis avec la population. L'Algérie ne va pas accepter les responsables comme la population une nouvelle décennie de violence. Cette manifestation, est-ce qu'il s'inscrit dans les mouvements d'octobre 88 et de la décennie noire? Apparemment non, parce qu'il est calme, il est sans violence, mais les acteurs sont déterminés.
L'armée pourrait-elle basculer du côté des manifestants?
L'armée algérienne est l'une des rares armées de la région à avoir une légitimité. Elle est issue du FLN, de l'armée de libération nationale, celle qui a fait la résistance. Mais la guerre s'est arrêtée en 1962. Donc nous avons une nouvelle génération de militaires, jeunes, diplômés. L'armée, à mon avis, et on l'a vu au début de la crise, a montré une sympathie pour la population. Il y a eu aussi une inflexion en disant que l'armée est proche du peuple. J'espère, je suis sûr qu'il y aura un compromis. La fuite en avant serait désastreuse pour le pays et naturellement pour nous tous, les voisins du Sahel et aussi les grands pays de l'autre côté de la Méditerranée, France en particulier, mais aussi Espagne et Italie.
Alors justement, quelles sont les implications de cette crise pour la région?
D'abord, les implications politiques. Il peut y avoir un effet de contagion. La population dans beaucoup de pays peut dire on va abandonner le système électoral. À quoi mène le système électoral? Parce que ceux qui sont au pouvoir gagnent. Donc il y a une tentation de contagion par des manifestations. Je pense que ça montre la maturité des populations. Il y a une implication aussi pour le terrorisme, qu'il y aura moins de surveillance, mais la grande implication sera surtout économique. Il y aura un arrêt, pour le moment en tout cas, du commerce entre l'Algérie et les régions frontalières de Mauritanie, du Mali et du Niger, sans parler des échanges occultes informels qui font vivre beaucoup de populations. Donc la crise algérienne n'est pas une crise banale.
Joint à Nouakchott, l'ex-émissaire spécial de l'ONU et ancien ministre mauritanien des Affaires étrangères, Ahmedou Ould Abdallah. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Nashwan Kale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.